Vous écoutez RTL. C'est l'été.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Allez, c'est l'heure de se poser confortablement et de profiter de la culture qu'on vous offre sur RTL jusqu'à 9h. Avec toute l'équipe autour d'Anthony Martin, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et la troupe qui est donc là, bonjour.
Bonjour.
Au programme, une des voix de la jeune génération dans Y'a de la voix, Steven Bellery.
Eddie Depréteau.
Dans notre série, quel chef-d'œuvre auriez-vous aimé écrire? À qui avez-vous posé la question, Bernard Lehu?
Jean-Christophe Ruffin, il a choisi L'Or, premier roman et chef-d'œuvre de Blaise Cendrars.
De nouveau, secret de producteur du cinéma français, Stéphane Boutsock.
Ah, monsieur Martin, ça tombe bien, vous êtes pile à l'heure pour la consultation avec le Toubib, entrez.
Le Toubib, donc. Et on retrouvera notre jukebox de l'été pour un duo surprise et on revivra une de nos belles rencontres.
Laissez-vous tenter tout l'été
avec Anthony Martin sur RTL.
On démarre en musique, c'est parti pour une balade au cœur de la voix d'Eddie Depréteau, Steven.
C'est l'une des sensations de l'année. Son premier album, Cure, paru début mars, a déjà séduit près de 100 000 acheteurs. Sa musique est inclassable, à la fois rap et chanson, pop et hip-hop. Il dit avoir beaucoup écouté Barbara et Booba, Nougaro et Adèle, une diction et un flow hallucinant. Il y a de la voix aujourd'hui avec le phénomène Eddie Depréteau.
Comme dans tout collège à l'époque, on avait les classes de musique. Et je me rappelle, c'est le professeur de musique qui me disait « Oh Eddie, vous avez quelque chose, faut faire plus de chant, nanana, je vais vous mettre dans les baladins. » C'était une sorte de compagnie de l'école, une sorte de groupe de chorale où avec qui on avait un spectacle de fin d'année. Il m'avait proposé d'y aller. J'avais une voix très très aiguë. Et je me rappelle, je chantais « I believe I can fly » de R. Kelly. Dans la tête, j'ai toujours voulu faire ça depuis le plus jeune âge. Je tournais mon halogène dans mon salon, l'halogène de ma mère. Je prenais la télécommande en guise de micro et je faisais le show devant ma mère et devant les voisins. Et ça, c'est ça qui me plaisait. Du coup, j'ai toujours eu cette envie, c'est une sorte de force d'esprit interne de me dire, je veux faire ça. Je veux être comme Jennifer ou Jean-Pascal à la Star Academy. Je veux monter sur scène et faire ça de ma vie. J'ai le cœur en dedans. La puissance vocale de Adèle m'avait toujours excité, m'a toujours plu. J'ai toujours aimé cette voix pleine, ronde. Ella Fitzgerald aussi, j'adorais. Nina Simone, ses voix entières, ses voix qui prennent de la place. Et je rêvais d'avoir des voix comme elle. Hey California, it's cold and it's dead. That's why the lady is a trend. Moi, muet, ça a été une crise parce que je me disais, est-ce que je vais retrouver ma voix, un timbre particulier? C'est à ce moment-là que j'ai pris des cours de chant. Le placement de voix, la projection, l'articulation, les consonnes, l'ouverture des voyelles, il y a eu énormément de techniques, ouais. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéines. Il y a un côté très précis, un côté un peu nasillard, un côté électrique, grave, plein. La voix, c'est moi, ça fait partie totalement de moi. C'est ça le plus difficile, je trouve, dans un chanteur. C'est que mon instrument, c'est ma vie, c'est moi. Ça vit tout ce que je vis. Parfois, je lui demande des choses que je pense qu'elle serait pas possible de faire. Moi, j'ai eu énormément peur que justement, que je la perde ou qu'elle parte parce que j'avais une vie pas idéalement adaptée à ce qu'on attend d'un athlète vocal. C'est la fête de trop. Moi, je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Je l'ai beaucoup intellectualisé. Tu réfléchis à tout. C'est comme de l'acrobatie, vraiment. J'ai vraiment à travailler mon instrument, parce que j'appelle ça l'instrument, comme un athlète, dans le sens où chaque jour, c'est de la répétition. Il y a énormément de muscles dans tout le labial et tout le visage qui aident justement à la précision de la justesse de la voix. C'est des exercices qu'on fait quotidiennement, avec le souffle également, qui aident justement à correctement chanter. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Banal, je suis complètement normal, je suis complètement malade. C'est drôle, il y a un an, je t'aurais dit elle est fragile. Mais là, de plus en plus, j'ai confiance en elle. Je pousse un peu encore plus les limites et elle me suit. On ressent tellement de choses et on ressent tellement de lâcher prise. On peut très difficilement le définir. C'est comme une partie de sexe quand on fait la fête pleinement. Il y a quelque chose qu'on peut difficilement capter. Je dirais quelque chose de total, d'intense.
Si ça continue, je me taillerai en ocre. Je mettrai à ma vue que des gens qui m'adorent, que des gens qui me dévorent, que des gens qui m'évoquent, qu'un beau moi sans effort.
On me l'a dit surtout, que j'avais une voix particulière. Après, il a fallu la travailler, c'est une chance. Ma phoniatre m'a expliqué que j'avais une glotte particulière, d'où le timbre particulier.
Et qu'est-ce qu'elle a, votre glotte?
Elle est en forme de Nike. Je te dis la vérité. Elle est en forme de Nike, alors que normalement, elle est en U.
Au beau lieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric.
Est-ce que vous aimez votre voix?
Ma voix parlée, non. Je la trouve trop précieuse, trop relou. Mais ma voix chantée, plutôt, ouais.
Jimmy, Jimmy, j'avoue que dans la nuit, je ne te loupe jamais ta vive moto inouïe. Février, la soirée, même aux heures de l'oubli, t'arrives vite en avalanche sur la pente de pluie. T'auras toujours pas de blanche, tu relances la musique, tu ressuscites mes danses, t'amènes tous mes délices. Sur un grand plateau d'argent, tu traverses les périphes pour sauver mes urgences au rythme de tes périples. Cherchez ton allégeance.
Il aime les voix qui prennent de la place. Une chose est sûre, c'est qu'il a trouvé sa place, hein, en quelques mois. Eddie De Pretto et ses confidences autour de la voix. Il fait partie de cette génération qui rêvait d'être chanteur en regardant la Starac. Mais lui, il a travaillé, il a trouvé son identité avec notamment sa glotte. On a tous, ça nous a tous fait rire. Sa glotte en forme de virgule, on va dire. Ouais, hein, ouais, voilà. Ouais. Il aurait pu avoir une glotte en forme de trois bandes, en forme de puma, l'animal. Mais c'est plus compliqué. Hein, voilà.
Eddie De Pretto chantera demain dans le théâtre de Verdure de Nice à Dijon le 31 août. Le 12 octobre, dans sa ville de Créteil, et débutera le 1er mars, une tournée des Zéniths.
Et on poursuit notre chasse au trésor parce qu'on en a pas mal depuis 5 semaines en vue. Si quelqu'un possède l'enregistrement de Eddie De Pretto qui interprète I Believe I Can Fly, on est preneur. Hein.
On la passera à Canmerade.
Exactement. Il y a de la voix, reviens demain. Merci Steven. Bernard Lehu, chaque mercredi de l'été, un écrivain nous aura confié le grand classique, le chef-d'œuvre qu'il aurait aimé écrire. Ultime rendez-vous de cette série avec donc Jean-Christophe Ruffin qui a choisi L'Or, le tout premier roman de Blaise Cendrars.
Paru en 1925, Cendrars n'avait publié jusque-là que de la poésie. C'est l'histoire vraie du général Sutter qui rachète au début du 19e siècle la Californie, alors propriété du Mexique, et se lance dans l'agriculture à grande échelle. Alors qu'il est en passe de se construire une fortune colossale, il est chassé de ses terres par la découverte de l'or et la grande ruée qui s'ensuit. Il passera le reste de sa vie à tenter de les récupérer, ses terres. En vain, il mourra ruiné et désespéré à Washington. Jean-Christophe Ruffin dit toute son admiration pour le roman de Cendrars.
C'est un livre extrêmement court et d'une grande richesse, d'une grande puissance, qui condense une forme de génie, parce qu'il y a toute l'histoire d'un homme, bien sûr, d'une région, d'un monde, d'une époque, dans un livre très fort et très beau. C'est cet homme, Sutter, l'homme de la conquête de l'Ouest, et l'homme qui va être détruit par l'arrivée de l'or. Donc c'est une espèce de, à la fois... Donc c'est, la construction est très très forte. Moi je trouve que ce qui fait le génie d'un écrivain, à mon sens, plus que tout, c'est la construction. Et c'est la puissance romanesque, c'est-à-dire écrire loin de soi, écrire des choses qui ne sont pas directement votre vie. Et là, Cendrars, c'est loin de lui, il est loin de lui et il reconstruit une sorte de monde entier, quoi, en quelques pages, puisque c'est un livre très court, qui est vraiment une pure fiction, une pure construction romanesque et qui est au fond la structure d'une tragédie.
Écrire loin de soi, c'est ce qui fait le génie d'un écrivain. Quelle belle formule de Jean-Christophe Ruffin.
N'est-ce pas? Ouais. Et alors, ce génie chez Cendrars s'exprimait, il faut le rappeler, dès son premier roman. Donc, pourtant, l'écrivain était rarement satisfait de lui-même, comme le prouve cette archive étonnante.
Non, mais vous savez, c'est un métier tellement ingrat, et réellement, en toute sincérité, on a peu de satisfaction devant sa page à écrire. On a très peu de satisfaction et tout à fait, pour moi, tout au moins exceptionnel. Me dire ça, mon petit Blaise, c'est pas mal torché, c'est même très bien. Vous vous satisfaites là, on se l'accorde, Bien rarement.
Blaise Cendrars, l'auteur de L'Or, publié chez Folio. Le chef-d'œuvre que Jean-Christophe Ruffin aurait aimé écrire.
Jean-Christophe Ruffin, que nous avions reçu en mars dernier pour son dernier roman. Pas mal torché aussi, mon petit Blaise. Le suspendu de Conakry, édité par Flammarion. Merci Bernard.
Parce qu'il y a toujours les meilleurs dans Laissez-vous tenter. La suite, ce sera le cinéma. Si vous êtes des fans des salles obscures, vous restez connectés. A tout de suite.
Bonne matinée, il est 8h50.
C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL.
Allez, LVT, version estivale avec vous toujours, Anthony.
Et avec Stéphane Boutsock et de nouveaux secrets de producteurs. Et aujourd'hui, une consultation avec le producteur Alain Terzian. Il se souvient du film Le Toubib avec Alain Delon, sorti en 1979 et réalisé par Pierre Granier de Fer.
Stéphane. Film de science-fiction, il n'y en a pas beaucoup en France, donc parlons-en. Non, tiré vrai. Du roman Harmonie ou les horreurs de la guerre, signé Jean Frostier, qui suit les pas d'un chirurgien opérant sur le front d'un conflit imaginaire, on est en Europe, pendant une Troisième Guerre mondiale. Au casting, une quasi-débutante, Véronique Jeannot, Bernard Giraudot et donc Alain Delon. C'était seulement le troisième film produit par Alain Terzian.
Je ne sais pas, je devais avoir autour de 30 ans. Et je crois que c'est Belmondo qui m'avait organisé le rendez-vous avec Delon dans son appartement. À l'époque, il habitait Quai Kennedy, un somptueux appartement. Là, il y a un maître d'hôtel qui m'ouvre la porte et derrière le maître d'hôtel, il y a un gros Matin de Naples, un chien énorme. Il s'appelait Manu, je me rappelle, qui fait « Brrrr ». Je me suis dit, ça démarre pas bien.
Vous connaissez la Champagne ? J'ai une maison avec une rangée d'arbres et un chien, un berger belge. Il s'appelle Marius. Et puis j'ai aussi une sœur qui m'aime.
Parallèle amusant avec le scénario du Toubib, dans lequel Delon, homme solitaire et désespéré, n'a d'affection au départ que pour sa sœur et son chien.
Je vais t'envoyer quelqu'un, une femme. Elle s'appelle Harmonie. Je vais la retrouver à la maison quand je reviendrai. Tu l'aimeras beaucoup. Ou alors fais semblant. Marcia ! Marcia ! C'est très important. C'est aussi important que toi et le chien.
Je commence timidement à lui caresser le dos. Et là, il se couche sur mes pieds. Je continue à lui caresser le dos. Il devait bien faire 80 kilos. Hein. Et moi, j'entends. Le dernier qui a arrêté de le caresser lui a mangé la main. Et c'était l'entrée d'Alain Delon à l'autre bout du salon, qui devait quand même faire 25 mètres de long. Puis après, il a fait « Bon, je suis Alain Delon », comme si je ne l'avais pas reconnu. C'est ça, il fallait me préciser un sous-titre. On a commencé à parler d'un film avec lequel il était en panne depuis un an et demi, qu'il a envie de faire ce film-là, que les films « Boum Boum », les films de gangsters, il avait assez donné. Et donc, il voulait commencer à faire des films avec plus d'humanité, de sensibilité. Et pour ça, Granier de Fer était un grand, grand monsieur. Et quelques années plus tard, on avait en projet de faire un film Alain Delon, Romy Schneider. Et hélas, elle nous a quittés quelques semaines avant.
Le Toubib, Stéphane, c'est donc le début d'une longue relation entre les deux Alain, hein, Alain Delon et le producteur Alain Terzian.
Oui, relation qui dure toujours et qui prend sa source sur le plateau du film, notamment dans le décor du bloc chirurgical.
Je me souviens, on avait tourné une partie au studio de Boulogne, où on avait reconstitué une grande partie de l'hôpital de campagne et tout ça. Et j'avais été très frappé parce que moi, j'arrivais toujours en avance, je parlais beaucoup avec les techniciens avant sur le décor. Et quand à un moment, vous étiez à un bout du décor, il y avait, je ne sais pas, 80 mètres entre le bout du décor où on était et l'autre bout où il y avait la porte d'accès. Et à un moment, tous les techniciens d'un seul coup passaient de la conversation comme ça, assez chaleureuse, au murmure. Et ils murmuraient comme si le maître d'école était rentré dans la classe. D'un seul coup, tout le monde se mettait à murmurer comme ça, attention. Mais sans le voir, on sentait qu'il arrivait.
Tu vas pas me couper la patte. Non, il faut que je te répare l'artère. Il doit rester du cuivre ou du plomb là-dedans.
Je suis premier Suisse tué par des Chinois.
T'es pas Suisse, t'es pas mort et c'est pas des Chinois.
Tout à l'heure, tout pime.
C'est ça, tout de suite.
Alors, à cette époque, Alain Delon a 44 ans, il est au sommet de sa carrière et Alain Terzian se souvient que les propositions de films arrivent du monde entier, même les plus surprenantes.
Tout ce qui se passe est incroyable. Quelques années plus tard, je crois que Spielberg lui proposait « Rencontre du troisième type ». On était allé pour lui dire qu'il ne le sentait pas, je ne sais pas quoi. Et puis on était revenu au bureau quelques jours après. Et là, il y avait un message de Bernardo Bertolucci. Bertolucci lui avait envoyé un scénario qu'Alain avait lu, parce qu'Alain, alors, il lisait méthodiquement, mais c'était vraiment un monument de sérieux, de professionnalisme, de courtoisie. Et il l'appelle « Mon petit Bernardo ». J'ai lu, écoute, c'est intéressant. Et moi, en me disant ça, il lève les yeux au ciel et il dit, mais au point où t'en es, pourquoi tu le proposes pas à Brando? Et c'était Le dernier tango à Paris.
C'est fou, hein, ça alors. Donc Delon a dit non à Spielberg, oui, à Bertolucci. Ouais, c'est incroyable. Et il y a mieux encore, Stéphane.
Si je vous dis 007.
Mais non.
Écoutez à l'intersion, l'anecdote remonte au tournage du Toubib. On est donc à la fin des années 70.
Il y avait un producteur mythique que j'avais envie de rencontrer. C'était Albert Broccoli, producteur de James Bond. Et il tournait tout un James Bond dans l'autre moitié des studios que nous, on n'occupait pas. Et il lui avait proposé, quand Sean Connery a jeté l'éponge, de prendre le relais. Et on parle là d'un Alain Delon qui a 35 ou 38 ans, par là. Honnêtement, j'ai beaucoup regretté qu'il ne tourne pas le personnage de James Bond en prenant la suite de Sean Connery.
Aurait pu être James Bond. Aurait pu.
S'il était né en Angleterre, en tout cas, ça l'aurait peut-être fait, parce qu'il faut que
la tradition, c'est ça. Il faut que l'acteur soit anglais.
Alain, mon nom est Alain.
Disponible en DVD chez Pathé.
Merci Stéphane. Allez, ajoutons à tout cela notre pépite du jour, une de nos belles rencontres dans Laissez-vous tenter au cours des 10 derniers mois. Le 13 avril, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri étaient vos invités, Stéphane, ici avec Yves Calvi. Le temps passe et les Jaoui-Bacri travaillent toujours ensemble.
Et il se trouve que voilà, on écrit depuis 30 ans. Il y a 30 ans, j'avais 35 ans et Agnès 25. 30 ans ont passé et voilà, 22. On a l'âge qu'on a.
Comment ? 22.
22. Je veux dire, on est NAIT jeune. On vit dans le pays de la jeunesse, puis un jour on en est exilé et on sent que voilà, une autre période arrive et on découvre tout ça. C'est pas tant une peur que le plaisir de raconter par le menu ce qu'on en ressent. C'est l'affaire de ma vie d'avoir écrit et d'avoir connu et écrit avec Agnès. C'est une expérience que j'ai pas envie de voir arrêter. On aime se voir, on aime écrire ensemble, et donc voilà.
Moi, ça me touche, je sais pas quoi vous dire. Ouais,
c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Chose. Il me fait un petit sourire confus.
Non, mais c'est parce que c'est gênant. Enfin, c'est pas gênant, mais
de voir que vous êtes toujours à travailler ensemble et à partager des émotions ensemble, ça fait du bien. Alors que la vie vous a séparés aussi.
Ah voilà. Oui, on est toujours heureux d'être ensemble.
Un petit moment hors du temps, hein. Oui. Très émouvant entre Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Ils avaient les yeux humides. Hein.
Ah oui, très, très, très.
Musique, notre jukebox rempli de duos clignote. Voici le duo du jour. They wanna know by clothes we wear, if we swing both ways, and who stays there. As long as we get paid, we don't care, the choice is there. Quand Robbie Williams et Michael Bublé swingent ensemble et s'amusent, ça donne ce soda pop qu'on trouve sur l'album de Robbie Williams, Swings Both Ways, sorti en 2013. À demain.